une façon comme une autre de replonger dans le passé, de plonger tout court. Nous allons descendre l'Amazone, comme je vous l'avais promis. Ce soir, c'est Noël. C'est Noël et vous êtes tout à fait le Péruvien de l'endroit. C'est-à-dire, vous descendez ces derniers contreforts des Andes et à nos pieds, pour la première fois, vous voyez la jungle. Ce matin, eh bien, j'ai dit la messe et puis nous avons commencé notre descente dans les nuages. Les premières paroles d'un très beau film, d'une aventure, celle d'Aguirre, la colère de Dieu, l'Amazone, l'Eldorado, que de mythes. Hier soir, j'ai tout simplement reglissé une cassette vidéo et j'ai repris le départ de ce film. Ces premières paroles, cette première descente, ces premiers nuages, une image inoubliable que Herzog a réussi non seulement à nous transmettre en quelques secondes, mais nous faire déjà espérer attendre ces 6000 km de trajet. On espère déjà l'Atlantique sans jamais avoir mis un seul pied dans l'Amazone. Et puis, quand il dit en première phrase « On ne peut pas faire descendre ce fleuve aux hommes », et moi je dis que c'est possible, et qu'on répond « Non seulement je sais que j'ai raison, mais je sais que vous avez tort. » C'est un conflit, c'est un contraste, c'est de la folie. Une image avec des Indiens et des ponchos qui descendent ces derniers contreforts, des images qui ont été prises à Machu Picchu, vous connaissez le site, tout le monde connaît Machu Picchu, cette porte des Andes, et puis enfin, le côté plane, cette première observation de la jungle. Tout à coup, vous vous sentez pénétré, votre peau a changé, le climat a changé, votre respiration a changé, la nourriture va changer, l'eau n'est plus la même. Tout ce qui vous entoure commence à se mouvoir. Vous grouillez en extérieur, en intérieur. Oui, j'en parle comme ça parce que quand vous voyez tout à coup ce radeau avec une quarantaine d'hommes qui partent à la recherche de l'Eldorado et qui savent que partout il y a des Indiens hostiles, là je suis à moitié dans le film, à moitié dans la réalité, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir cette première semaine d'expédition, cette attente des hommes, de voir ce fameux Lope de Aguirre. Bon, ça n'est pas très important parce que Herzog a un peu tout mélangé. L'histoire, je tâcherai de vous la raconter tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de voir comment il a campé ses personnages. Il a voulu parler d'un certain Gaspar de Carvajal, un chroniqueur, un prêtre, un dominicain qu'on rencontrera également tout à l'heure. Et puis il y a ces 200 esclaves indiens. Une sorte d'après-guerre, quelque chose de très curieux. En fait, qu'on soit en 1560, qu'on soit en 1539, selon le moment de l'histoire, selon le vrai découvreur de l'Amazone, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a eu des hommes assez fous pour faire le tour de l'Amérique, pour envahir le Pérou, pour aller attaquer Sacsayhuaman, la plus grande des forteresses incas. Et là, en pleine jungle, on retrouve par exemple Fernando de Guzmán, celui qui a osé vraiment s'attaquer à la plus grande forteresse d'Amérique. Cette fameuse forteresse en dents de scie avec ses blocs de 120 tonnes. C'est lui qui a osé attaquer l'Inca à cet endroit. Et vous le retrouvez ici, en pleine jungle, dans cette humidité. Il va être assassiné lui-même. Dans le film, c'est Aguirre, justement, qui va finalement c'est étrange, le faire à la fois empereur, roi. Et c'est peut-être par cet aspect amazonien que l'on sent, même aujourd'hui, en regardant la carte, en voyant ce qu'est le Brésil, qu'on sent l'avenir, le futur, un futur qui débute au XVIe siècle, mais qui est encore pour demain. L'Eldorado existe encore, parce que quand vous arrivez pour la première fois dans cette zone, et qu'un homme comme Guzman est fait empereur et se sépare de l'Espagne, pour la première fois, l'Amérique devient indépendante, et c'est en Amazonie qu'on va créer ce premier mythe, en sachant pertinemment que vous allez vers ces terres de l'Eldorado. Là, vous voyez, je viens de faire un puzzle une fois de plus. Vous êtes à la fois avec Pissarro, qui était le chef de l'expédition, vous êtes avec un faux empereur, vous êtes avec un homme aussi fou qu'Aguirre ou Aureliana, dont on parlera tout à l'heure. Les noms n'ont pas d'importance. C'est surtout l'attitude, le fait de se trouver au bord d'un fleuve et de savoir qu'il n'y a qu'une solution. C'est le retour vers Quito ou vers les terres péruviennes d'altitude, ou alors se laisser glisser, descendre sur ces premiers rapides, prendre ensuite le niveau de cette eau étale et aller jusqu'à la mer. C'est la seule solution.
Brana na praça, onde as pessoas passeiam com calma. O berimbau, quando canta, invade minha alma. É um mar de alegria. Parimuá, lá, lá. Parimuá.
Musique de la pluie, danse de la pluie, qui est partie de ces nuages effilochés, qui arrive finalement à Bahia. Enfin, c'est l'explosion brésilienne, c'est l'avenir, en fait, de ce sous-continent incroyable. L'Amazone est encore vierge. L'Amazone est déjà détruite, et on a commencé à la détruire le jour où l'homme blanc a mis le premier pied sur un radeau pour descendre ce fleuve. Eh bien, j'aimerais juste que, un peu à la façon peut-être d'un manuel d'histoire un peu méchant, un peu taquin, on reparte avec le vrai découvreur de cette Amazone, ce fameux Francisco de Orellana. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui parce que c'est peut-être le conquistador le plus incroyable, le plus absurde, et c'est le seul qui a vraiment découvert un Eldorado qui n'existait pas et qui a vraiment lancé tous les grands mythes de l'Amérique. Orellana, c'est quelqu'un qui sera vraiment, de manière officielle, le découvreur de cette Amazone, mais je crois que ce qui est important, c'est de comprendre comment a débuté cette histoire. Admettons que vous connaissiez parfaitement l'histoire Inca. Admettons que vous sachiez que Francisco Pizarro est maintenant le grand chef du Pérou, à la fois précolombien et espagnol. Parce que si les Incas se sont battus juste avant l'arrivée des Européens, entre empereurs, entre Incas, c'est vrai, il faut savoir aussi que les Espagnols ont fait exactement la même chose. Almagro et Pizarro, qui étaient des amis absolus, vont se battre au point qu'on dit que les almagristes et les pizarristes vont être ennemis jusqu'à la mort. Et c'est vrai que si Pizarro meurt en 1541, 2 ans auparavant, c'est le seul moment où il est maître à bord. Maître à bord, pas tout seul, puisque ses deux frères sont présents également, mais je veux dire que tous les almagristes ont été assassinés. Il y a eu un conflit, un problème de pouvoir au Pérou, comme nulle part ailleurs en Amérique à l'époque. Et Gonzalo, qui est le frère de Francisco, est finalement envoyé à Quito. Et ça me touche beaucoup parce que si vous regardez la carte et que vous voyez que Cusco était la véritable capitale inca, que Lima, depuis 1536, était un petit village au bord de la mer, près d'un port futur qui allait permettre à tous ces bateaux de partir sur Panama, devenir le centre du monde de ce Pérou de l'époque, qui touche également la Bolivie, Quito va devenir un nouveau moteur des choses. Pourquoi Quito? Parce que Quito est justement tout près de notre mythe d'aujourd'hui, tout près de ce pays étrange qu'on appelait alors le pays de la cannelle. Qu'est-ce que la cannelle a à voir là-dedans si je vous parle d'Eldorado? Mais tout simplement parce que tous les hommes qui étaient partis d'Europe étaient partis pour les épices. Une phrase qui revient systématiquement: au début, il y avait les épices. et c'est pour les épices que nous sommes partis faire le tour du monde. C'est en ce nom que nous avons, dans l'encours, parcouru la planète avec les premiers découvreurs. Et je crois que cette cordillère équatorienne nous donne ce même esprit. On attend, par le climat qui se trouve juste derrière, ce pays de la cannelle, on parlait d'or, c'est vrai, mais on était persuadé que là, on aurait des bénéfices encore plus incroyables que le trésor même de l'Inca. C'est ce qu'avait fait Colomb, c'est ce qu'avait fait Magellan, et ce pays, qui était en fait une simple légende, ou plutôt une méprise, car sachez quand même qu'il y avait une ressemblance entre certaines espèces. Allez, là, je ne vais pas faire de la botanique, mais il y a des sortes de magnolia comme ça, assez grands en Amazonie. Il y a des meliacées aussi en Amérique tropicale, qui ont pratiquement la même allure que cet arbre. Vous savez, cet arbre dont on doit enlever l'écorce, tout simplement, pour fournir la cannelle. Or, il n'y a jamais eu de cannelle américaine. Mais le mythe est resté. C'est-à-dire que l'arbre à cannelle, on était persuadé qu'il était là, et en fait, on va petit à petit glisser vers ce nouveau mythe qui sera l'Eldorado. Parce que, en descendant, en commençant à aborder ce pays plane, on a finalement trouvé suffisamment d'or pour que triomphe véritablement le mythe de l'Eldorado. C'est propre à l'Amazone, mais c'est propre aussi à tout ce continent, ce sous-continent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, nous sommes à Quito. Alors, vous avez saisi que Pissarro, là, je parle du grand chef, a envoyé son propre fer là-bas pour chercher ce pays de la richesse. Enfin, il venait d'avoir le trésor de l'Inca, qui représente des tonnes d'or, et pourtant, il pensait qu'il y avait mieux encore. Et en montant ainsi à Quito, en partant de Cusco, c'est un beau voyage déjà, hein, même avec un cheval sur les pistes Inca, il va rencontrer Francisco de Orellana, notre Gonzalo Pizarro. Et là, ils vont décider de partir ensemble. Orellana, c'est quelqu'un qui a fondé une ville qui est très importante en Équateur, c'est Guayaquil. Il a été le premier à vivre dans ces zones tropicales et il est prêt à faire le saut de la cordillère pour descendre vers cette Amazone inconnue. Mais malheureusement, Gonzalo n'est pas quelqu'un de très franc. Il va partir avant lui, ils vont se poursuivre réellement, chacun va monter son expédition et on prétend, d'après les chroniqueurs de l'époque, qu'il a fallu plusieurs centaines de kilomètres avant qu'Orellana rattrape Gonzalo qui était déjà parti en avant et qui recherchait les premiers fleuves, les premières rivières qui allaient petit à petit le faire pénétrer dans l'Amazone. Et bien sûr qu'on comprend qu'il y a eu tout de suite des conflits entre eux. Et c'est au moment où ils se rencontrent et que la troupe arrive près d'une rivière qu'on connaît aujourd'hui comme le Rio Coca, que c'est un affluent en fait du Napo. Je ne veux pas vous demander de regarder la carte de l'Amazone, mais c'est important de voir toutes ces ramifications qui petit à petit vont vous amener dans l'Amazone même. Et lorsqu'on est au Rio Coca, on sait qu'obligatoirement on va tomber sur le Napo et qu'obligatoirement on va finir par croiser cette Amazone. Et là, il y aura des contradictions parce que qu'est-ce qu'il faut faire quand on est au bord d'un fleuve qui est encore assez tumultueux, assez fort, pas très large? Je pense à notre aboutissant, enfin à notre finale de voyage. Il y a deux solutions. Soit on continue avec ces moustiques, ces insectes incroyables, ce côté boueux, cette forêt impénétrable, soit, éventuellement, on construit un radeau ou un brigantin et on se lance carrément sur l'eau. Ça, je l'ai beaucoup fait. J'avoue que c'est une des régions qui me fascine le plus au monde. J'ai toujours prétendu, pour ceux qui aiment m'accompagner ou qui aiment vivre un moment avec moi dans ces pays-là, que le seul moyen d'aborder le monde inca ou le monde indien, c'est-à-dire le côté ethnographique et amazonien, eh bien c'est justement par l'eau qu'il faut le prendre. C'est-à-dire qu'il faut monter, faire du rafting, comme on dit aujourd'hui, il faut monter sur un canot en pneumatique, et puis il faut se lancer avec 7 ou 8 rames, et puis on se laisse aller dans les rapides, et on descend petit à petit. Et là, on sent l'atmosphère, on sent cette venue de quelque chose qui vous prend aux tripes. Et alors, lorsque vous arrivez finalement dans les eaux plus calmes, là vous pouvez changer. Là vous allez prendre une pirogue. We'll be right back. des centaines d'îles, des endroits lugubres, des milliers d'oiseaux, un mouvement constant, la rame. Vous avancez, vous vous laissez glisser. Et tout à coup, vous vous trouvez dans un endroit où, à 200 mètres à la ronde, il n'y a même plus de rive. Vous êtes dans le fleuve. Et là, vous attendez, ou plutôt vous faites semblant de glisser à l'inverse des nuages qui sont en dessus de vous. Dans la pirogue, des dizaines de piranhas ont sauté parce qu'il n'y a même pas besoin de pêcher. Ils pénètrent tout seuls dans le bateau. Et puis vous avez un peu pitié pour le plus beau, vous le rejetez à l'eau et vous continuez à ramer. Vous êtes deux ou trois sur une pirogue. Une autre est à côté de vous, elle ne suit pas tout à fait le même rythme, elle est prise dans un remous. Il y a cette couleur chocolat, il y a ce bleu, il y a ce blanc du ciel. Et puis ces bruits qui sont en fait des silences. C'est très étrange. L'eau n'a pas de son, mais elle glisse. Vous l'entendez glisser. Vous entendez le feuillage, qui est très loin. Vous entendez un animal. Vous entendez quelque chose qui est pratiquement imperceptible. C'est une ambiance unique. Et c'est surtout la voûte, cette voûte du ciel. Et puis il y a la fièvre, il y a la chaleur. Parce qu'on ne peut pas vivre dans cette région sans avoir la malaria. C'est superbe. On décolle, on se sent différent. On remarque que la seule préoccupation du voyageur, c'est d'avancer ou de se laisser glisser. Et puis, vers 3h, 4h, on commence à avoir faim. Alors on pense à du feu, on pense à un peu de nourriture. Et puis on glisse comme cela petit à petit sur la bordure du fleuve. Et il y a toujours une petite plage de sable à quelque part. 3 maisons sur pilotis. Parce que lorsqu'il y a des crues, ça monte de 5, 10, 15, 30 mètres d'un seul coup, selon l'endroit. C'est très, très impressionnant. Mais là, je parle de distance et non pas de hauteur, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que les pilotis sont là pour quelque chose. Parce que vous vivez toujours à 3, 4 mètres en dessus du sol. Et selon le moment où vous venez visiter la famille que vous connaissez, l'hospitalité sera différente. Soit vous accostez directement sur la partie en bois, soit vous devez monter l'échelle. Et puis... Le jour se couche, enfin se descend petit à petit, la nuit arrive, et là c'est un moment unique. Non seulement la température change presque instantanément, 6h, 6h, le soleil est toujours constant, une pendule très très rigide, on est sous l'équateur, et il y a surtout, une fois de plus, ce son, cette sonorité intérieure qui vient de changer. Même sans musique, même sans rien, vous êtes déjà un peu indien. Et puis, vous laissez la nuit venir, vous allumez le feu, vous picorez vos piranhas, et là, vous dégustez. Vous dégustez quelque chose que seul l'Indien, le bon Indien, connaît. Nous en avons fait un mauvais Indien, parce que si l'Eldorado existe, c'est parce qu'il y a quelqu'un à combattre. Il y a quelqu'un qui tient la clé de l'Eldorado. Et nous sommes persuadés, nous, hommes blancs de toute époque, que c'est l'Indien qui a cette clé. Bah, vous n'êtes pas explorateur, je ne pense pas que vous ayez été caoutchoutier, marchand de bois ou d'épices ou marchand de peau. Bah, vous n'êtes pas diamantaire non plus, les herbes, le maté, vous ne vous intéressez peut-être pas au pétrole. Vous êtes écologiste, un peu peut-être, anthropologue, moi je le suis. Bah, y a eu des hippies, il y a eu des touristes. C'est l'Amazone, mais entre cela et vous, il y a l'Indien. Écoutez-le. Déjà de légende, c'est vrai qu'on va savoir très rapidement qu'il n'existe pas d'Amazone. Et pourtant, ce fleuve s'appelle Amazone. Le mythe de l'Eldorado, celui qu'ailleurs j'entends encore prononcer par les Indiens, le Paititi, le fameux Paititi du Pérou, de la Bolivie, ben c'est une chose qui est restée vivace. Bon, il n'y a jamais un mois, il n'y a jamais un jour, une année, sans qu'un explorateur un peu fou, qui s'appelle Savant, qui s'appelle Tintin, c'est égal, se lance encore à la découverte de l'Eldorado. Alors, il y a deux choses. Il y a l'idée que cet endroit est opulent. C'est intéressant parce qu'il est vide, parfaitement vide de plein et plein de vide. Et puis, il y a le fait que si vous êtes un prospecteur, aujourd'hui, ben, vous seriez prospecteur minier, vous voyez ces images de fourmilières incroyables qu'on a au Brésil. Ce Brésil qui est qui a un pouls absolument différent d'une autre. Quand vous parlez à un Brésilien, il vous parle un langage d'une autre planète aujourd'hui. Il croit à son pays qui est combien de fois plus grand que l'Europe, visuellement déjà. Et puis en même temps, il y a toujours cette promesse que depuis des dizaines, des centaines d'années, ce pays a toujours joué sur cet Eldorado, ces richesses qu'il pense que non seulement elles vont exister, mais qu'elles existent en puissance. Et c'est exactement comme de la neige au soleil. C'est ça l'Amazone, c'est de la neige au soleil. Et en fait, chaque fois, une fois vous remplissez votre locomotive de café, une fois le caoutchouc disparaît, une fois vous oubliez l'opéra de Manaus, et puis, en même temps, vous voyez qu'on repart sur d'autres mythes, d'autres histoires. Alors j'ai donné les métiers tout à l'heure, les métiers de l'Amazone, de l'homme blanc, mais c'est justement cette justification de l'Eldorado qui est intéressante, parce que l'Indien, il est d'abord païen, il est tout nu, il a des ornements étranges, regardez-le danser. Avec ses longues flûtes de 2 mètres de longueur, il tourne autour de sa case, il s'occupe de chants funèbres. Bah, il conserve jalousement un secret qui cache peut-être l'emplacement de toutes ces richesses insensées que nous savons exister au Brésil, que nous sachions pas que écologiquement on fait une erreur. Aujourd'hui, à propos de l'Amazone, ça n'est pas très important, mais ce qui est sûr, c'est que l'Indien, il n'a même pas d'usage pour lui-même de ses richesses. C'est ça qui nous dérange. C'est là où est peut-être la clé de l'Eldorado. Bah, vous avez peut-être vu Sting. Vous avez peut-être vu l'Indien qui l'accompagnait. C'est un message télévisé. C'est un message nouveau d'aujourd'hui. Qui vous dérange? L'Indien? Le plateau de l'Indien? Les plumes? Ou l'endroit où il se trouve au moment où il vous parle? C'est l'Amazone que vous rencontrez. Où est la clé? Derrière la porte. Thank you. dis si bien en disant fragilité. C'est vrai que ce côté fragile, on le ressent lorsqu'on observe aujourd'hui un Indien de l'Amazonie. Or, cet Indien n'a pas toujours été comme cela. Il n'a pas toujours été vu comme cela. À l'époque d'Aureliana, parce que nous reviendrons sur le fleuve, il était senti comme non seulement farouche, mais surtout lâche, quelqu'un qui attaquait par derrière, qui était capable de vous cribler de flèches et de javelines depuis la rive. L'Indien, même encore aujourd'hui, si vous osez l'analyse, vous allez vous rendre compte que quand vous pensez à l'Amazone, l'Indien, c'est encore l'obstacle. C'est l'obstacle de tout le Brésil. On ne parle pas de cela, même s'il y a un institut pour défendre l'Indien. Si vous êtes aujourd'hui prospecteur en quoi que ce soit, si vous avez envie d'ouvrir une route, d'ouvrir une usine, de créer un barrage, de faire de l'électricité, tout ce qu'on a envie de faire avec l'Amazone, c'est-à-dire le bois, les mines, les richesses actuelles, l'obstacle, c'est encore l'Indien. On s'invente un obstacle. On se donne une bonne raison d'en faire un obstacle. Or, c'est l'être le plus doux du monde. C'est peut-être un des derniers humains qui soit aussi doux et aussi agréable à côtoyer. J'étais tout à l'heure sur la plage, nous avons passé une soirée avec eux. Eh bien, c'est seulement lorsqu'on partage, même si toutes ces langues sont difficiles, on peut baragouiner le quechua et se rendre compte que dès qu'on a pénétré en Amazonie, on a un problème linguistique, un problème que vont retrouver les premiers Espagnols, qui sont pourtant accompagnés par plusieurs centaines d'indigènes des hauts plateaux, qui seront incapables de communiquer. Ça, c'est aussi l'Amazonie. C'est un monde étrange, vous êtes sur une autre planète. Et lorsqu'on va repartir avec Aureliana, après le conflit avec Gonzalo Pizarro, eh bien, c'est justement cette peur de l'aval, cette peur du fleuve, cette peur du fait qu'on est obligé de se laisser glisser, de se laisser couler, et on ne sait pas où. C'est ça qui est fabuleux. Il reste encore 3, 4, 5 000 kilomètres peut-être. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas. Derrière vous, il y a Quito. On pourrait encore retourner à Quito. Mais Quito, c'est l'échec. Aucune conquête en Amérique n'a été vue sous cet angle du retrait. Un Espagnol de l'époque, un chevalier espagnol de l'époque, ne pouvait pas perdre une conquête. Donc Aureliana va faire une proposition extrêmement forte. Il va décider de descendre ce fleuve et de laisser Gonzalo en place. Juste une semaine. Je vous donne une semaine, je me donne une semaine. Je reviendrai avec du renfort et surtout de la nourriture. Je trouverai les Indiens, je trouverai la fortune. Attendez-moi. Alors vous êtes une petite soixantaine à oser débarquer, vous étiez sur le Brigantin, et vous osez en fait maintenant partir seul et vous laisser derrière vous le gros de la troupe. Et au bout de quelques jours, ces gens ne se reverront plus, vont s'ignorer. Je dis cela parce que, obligatoirement, 350 personnes, et c'est beaucoup, sur les, je crois qu'il y en avait 57 ou 58 qui vont débarquer, vont décider avec Gonzalo Pizarro de retourner à Quito, de revenir en arrière. Or, les autres vont continuer à avancer. Ils doivent finir le trajet. C'est là que l'aventure commence véritablement pour ces 57 Espagnols. Les autres qui reviennent, ils ne seront que 80 quand ils arriveront à Quito. Ça a été l'expédition la plus désastreuse que les Espagnols n'ont jamais tentée. Et quand je dis une tentative ratée, c'est parce qu'en fait, on est en train de perdre toutes les terres chaudes qui sont à l'est des Andes. Regardez où sont les Andes, et vous verrez que vous perdez plus de la moitié de l'Amérique du Sud. Sur le plan moral, c'est énorme. Alors, il y aura une plainte, bien sûr, de Gonzalo Pizarro, qui va dénoncer la trahison d'Aureliana, qui lui aura osé continuer, et surtout ne pas revenir. Et puis, il y aura surtout un écrit de ce même Gaspar de Carvajal, dont parle le film d'Herzog, qui était interprété, qui était changé d'époque, qui a mélangé un peu tous les découvreurs de l'Amazone, mais ceci n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ce Dominicain, il est né aussi dans une ville assez peu connue en Espagne, qui se nomme Trujillo. Il y a aussi une ville qui s'appelle Trujillo, en l'honneur de Pizarro, au Pérou. C'est vrai que pratiquement tous ces conquérants du Pérou sont nés dans cette petite ville d'Espagne. C'est assez curieux de voir que notre Dominicain, Aureliana, les Pissarro sont tous du même village, véritablement. Et ça, à 12 000, 15 000, 18 000 kilomètres, selon l'endroit où vous vous trouvez en Amérique. Alors, notre Aureliana, eh ben, il a vécu à Panama, il a vécu à Lima, et c'est quelqu'un d'assez fou, parce que ce qui, moi, me trouble dans la description qu'en fait Carvajal, c'est surtout ce côté presque mythique, onirique, qu'on fait de ce personnage qui devient le conquérant de l'impossible et surtout le conquérant de l'inutile. Et Carvajal, lui, il va vivre sans aucun problème. Il va revenir au Pérou, il va mourir en 84, c'est-à-dire en 1584. C'est quelqu'un qui a vraiment tout vécu par rapport au siècle, et puisqu'il est né au tout début de ce même siècle à Trujillo, je le disais tout à l'heure. Et là, on les retrouve toujours en aval, en train de chercher la chose la plus difficile à trouver dans l'Amazone. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la nourriture. Ça paraît aberrant, mais ces gens-là, dans une Amazone qui vous paraît d'une richesse incroyable, il y a des fruits, il y a des animaux, il y a tout ce que vous voulez, mais vous êtes sur le fleuve et vous essayez maintenant de vous nourrir, mais ces gens-là vont manger leur ceinture, ils vont manger leur semelle, enfin la semelle de leurs chaussures, et ils vont même se retrouver, il y a des scènes époustouflantes dans le journal de ce prêtre, où on voit les Espagnols arriver sur la plage de tout à l'heure à quatre pattes, à n'en plus pouvoir, et puis essayer de se traîner pour aller manger quelques herbes, des racines. Dans le film d'Aguirre ou La colère de Dieu, on voit par exemple ces hommes qui mangent les algues qui sont prises sur leur radeau. C'est une très belle image. Et bien sûr, on comprend qu'après cela, vous avez des malaises, vous avez des souffrances épouvantables. Ce n'est pas la fin qui est terrifiante, ce sont les conséquences d'une fin mal gérée. Et ça, c'est terrible, parce que, bien sûr, vous avez des dysenteries pas possibles, vous êtes malade comme un chien. Je parlais de ma propre malaria, c'est vrai que quand vous vous découvrez dans un endroit comme cela, avec 42 fièvres, claquant des dents, vous vous dites que ce monde-là est hostile, mais qu'en plus, vous faites partie de ce monde de pourriture. C'est une image un peu audacieuse, mais c'est vrai que c'est cela. Vous êtes déjà de l'autre côté, vous êtes déjà dans l'au-delà. Et c'est ce que ces gens ont dû sentir lorsqu'ils ont retrouvé ensuite les premiers Indiens. On est déjà en 1542, c'est-à-dire si le temps avance, et ils vont rencontrer des indigènes qui vont les aider parce qu'ils arrivent à parler un peu leur langue. Il y a encore des traducteurs pour le quechua. Ils vont reprendre des forces, mais ils vont surtout se rendre compte qu'il y a de l'or un peu partout. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'ose pas toucher cet or. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de sacré dans le fait de devoir avancer par obligation. On ne tient pas à se faire des ennemis de tous ces Indiens qui pourraient vous attaquer. Et là, il y a un autre phénomène, c'est... Alors là, vraiment sous la plume du chroniqueur que nous citions, il y a la découverte des Amazones. Là, on parle vraiment de ces femmes avec un sein coupé qui sont là et qui attaquent. C'est une très belle image. Et pour qu'ils le mettent, c'est que ces gens-là avaient des hallucinations. Je veux dire que vous êtes déjà en état de fièvre. Vous êtes en train de descendre toujours plus loin et vous commencez à raconter des histoires. Vous êtes vraiment sur une autre planète. Et puis, il y a alors cette pénétration dans le fleuve Amazon. C'est une très très belle description, parce que tout à coup, c'est un croisement. Ils voient tout à coup, à partir de l'endroit où ils sont sur le Napo, ils voient arriver par la droite quelque chose d'incroyable, un fleuve totalement nouveau, une force totalement nouvelle, une couleur également nouvelle. L'eau est différente. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a deux saisons. Je veux dire par là que le Napo reçoit des eaux d'un endroit et l'Amazone d'un autre endroit. Donc, un est en crue, l'autre est à l'inverse. Et ça, c'est intéressant. Ils se rendent compte, ils décrivent très bien. Nous savons aujourd'hui le moment exact où ils ont vu l'Amazone pour la première fois. Et puis, il faut franchir tout cela. Il faut ensuite continuer sur cette route. Et ça, c'est un endroit qui est très, très beau. J'adore la jonction du Napo et de l'Amazone, parce que c'est le seul endroit où on a l'impression, à part l'embouchure de l'Amazone, qu'on a l'impression qu'on va véritablement se perdre. Il y a des dizaines, il y a des centaines d'îlots. Vous voyez un peu cet embranchement, cet Y ? Et puis là, au milieu, tout se met à bouger. Il y a des remous partout. Une île existe pendant 3 ans, elle disparaît. Elle est là pendant quelques jours, elle redisparaît. Donc, impossible de reconnaître ce paysage. Et l'embouchure de l'Amazone, ce sera la même chose. Quand Aureliana, un jour, voudra revenir dans sa nouvelle Andalousie, il sera incapable de retrouver l'Amazone. En remontant par l'embouchure, c'est un fleuve qui se perd, que personne ne peut rencontrer. On ne peut que tomber par hasard dessus et le suivre infiniment. Thank you. rythme, ce côté un peu répétitif de cette musique. On a l'impression qu'on tourne, qu'on se fourvoie. Ces gens vont se perdre pendant plusieurs jours dans ces îles sans savoir où est véritablement le bon courant. Où est l'Amazone? Et finalement, c'est un bonheur là pour Aureliana. On va retrouver une tribu d'indigènes à peu près identique à celle qu'on avait quittée. Des gens qui vont leur offrir à manger et qui vont surtout leur permettre de reconstruire un deuxième brigantin, beaucoup plus grand encore que le premier. Ce premier brigantin qui était lui-même suivi par des pirogues. Alors on voit cette image folle, hein, ce brigantin très à l'occidental, en même temps ces pirogues indiennes. Et là maintenant, ben, le temps a avancé, vous étiez tout à l'heure à Noël et vous commenciez à plonger dans la jungle. Nous sommes déjà à Pâques et on est même à la Quasimodo, c'est au mois d'avril, en 1542 toujours, que maintenant avec des vaisseaux qui me paraissent bien solides, on va quitter ce que je pourrais appeler, comment vous voulez dire ça, ben, c'est vrai que c'est le dernier village qui soit véritablement accueillant. Maintenant, on va se retrouver alors totalement en guerre jusqu'à l'embouchure de l'Amazone. C'est ça la folie d'Aureliana. C'est que maintenant, eh bien, c'est vraiment l'image d'Aguirre ou la colère de Dieu. Il y a maintenant peut-être une bombarde, il y a en tout cas des armes à feu, et ces gens qui sont perdus sur ces bateaux qui ne servent à rien, qui sont étranges dans un milieu où il a fallu tout inventer, c'est-à-dire prendre du tissu aux Indiens pour faire une voile, prendre des lianes pour faire un cordage, tailler des troncs d'arbres pour faire des planches. Vous imaginez ce que c'est que de construire deux brigantins dans cet endroit où depuis tout à l'heure nous n'avons pas avancé d'un pouce. On vient de quitter les Andes et on est encore au début de cette Amazone. Je viens seulement de sortir du Rio Napo. Alors l'approvisionnement, c'est sûr que ce sera le gros problème de nos Espagnols, parce que pour faire des vivres, ben, il faut chaque fois débarquer. Mais débarquer, quand il y a des centaines d'indigènes qui sont là pour vous recevoir, ben, il faut débarquer en nombre, il faut arriver à les impressionner. Et là, on ressent un autre mythe, la foudre, le tonnerre des Espagnols. Je crois que jamais on les aura autant utilisés que sur ce fleuve Amazone. Parce que les armes à feu, c'est vrai qu'elles font fuir momentanément les indigènes. On a juste le temps de voler quelque chose. On va prendre une réserve de nourriture, on va ramasser une ou deux tortues, on va manger des galettes de maïs, on va se bourrer de manioc, il y a même du riz sauvage, assez étrangement, parce que normalement il n'existe qu'en Asie. Il y a un tas de choses comme ça dont on nous décrit, on a faim, on mange, et puis ensuite on repart avec le peu de réserve qu'on trouve, avec nos quelques pirogues, et ça, c'est quand même intéressant, parce que là, ethnographiquement parlant, tout à coup, on se retrouve devant des ethnies extrêmement précises. On nous dit qu'il y a des céramiques, on nous dit qu'il y a des établissements qui sont fortifiés, on voit les premiers Indiens Tupis, on voit ces céramiques absolument remarquables dans leur décor qu'on retrouve encore aujourd'hui en Amazone. On aura surtout toutes ces maisons, comment est-ce que je peux les appeler, des oratoires, avec ces plafonds qui sont garnis de plumes de toutes les couleurs. C'est vrai que quand on entre dans une salle de musée d'ethnographie, dans la salle brésilienne, on rêve. Imaginez toutes ces plumes et ces couleurs de l'Amazone. Tout est là devant eux, il y a ces idoles, il y a des armes, il y a des parures, bien sûr. Et puis, ils parlent beaucoup de mitres, ces énormes mitres de plumes fantastiques que ces chefs de tribus amazoniennes portent sur la tête et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Là, je crois qu'il y a eu des moments très forts et les descriptions sont très très belles. Ce sont des bouts de texte qui, moi, me touchent parce que ce sont les premiers à voir ces tribus et non plus ces civilisations. C'est la première fois qu'on touche des gens qui vivent un peu en autarcie et qui se frottent les uns aux autres comme ils le font encore aujourd'hui. Vous le savez, il y a eu des réducteurs de tête, il y en a eu encore il y a quelques années. Il y a des tribus qui sont combatives. Il y a le fait que lorsqu'un chef meurt, on abandonne carrément la tribu de manière totale. On cherche un nouveau chef. Chacun va ailleurs. C'est un monde qui bouge, l'Amazone. C'est un monde que connaît bien l'Indien, et ça je pense que Aureliana et ses troupes l'ont senti très fortement, parce que maintenant ils devront aller jusqu'au bout du chemin. Alors il y a aussi l'exemple. Vous voyez que tous les mythes américains, toutes les formules qu'on a utilisées en Amérique se retrouvent en Amazone. C'est une espèce de concentré extraordinaire. Il y a la pendaison, il y a le côté extrêmement dur, le côté macabre même. Aureliana va comprendre que systématiquement, s'il ne peut pas utiliser, si ce n'est de manière très courte, les armes à feu, ben, il faut pendre des gens. Alors il tue l'Indien, et ainsi il fait comprendre à tous les Indiens que il y a danger, et ainsi il pourra débarquer, manger, continuer, avancer, se laisser glisser. Le jour de la Saint-Jean, on a aperçu une douzaine d'Amazones. Ça, c'est Caraval qui le dit, il l'écrit. Et puis, il y a lui-même... Enfin, il y a quelque chose de terrible, il va être blessé. Une blessure atroce, c'est-à-dire qu'une flèche va pénétrer dans son œil et ressortir de l'autre côté, c'est-à-dire au cou. Et il va se retrouver à peu près borgne, enfin, il va se retrouver dans le même état que son propre chef. Aureliana portait son œil borgne avec beaucoup de fierté. Voilà, déjà deux borgnes pour l'expédition, le chroniqueur et le chef. Et maintenant, eh bien, il faut continuer à descendre. Et là, je pense que ça a été peut-être l'instant le plus fou du voyage. C'est le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait inversion. Que cette glissade lente, le fleuve maintenant à plusieurs centaines de mètres de largeur, tout à coup quelque chose se produit. La couleur change. Il semble que les courants se sont inversés. Et si c'était la marée? Et si nous approchions de la mer? C'est vrai que la mer était toute proche. Eh bien, il faudra encore 18 jours dans ce delta, parce que maintenant, vous avez perdu la rive. Vous ne savez plus du tout où vous êtes. Il n'y a que le ciel, il n'y a que ces nuages. Allez un jour, montez, grimpez dans une pirogue, prenez un bateau, regardez ce que sont les embouchures de fleuves, de ce plus grand des fleuves qui soit. Et vous allez vous... Enfin, ce qui me touche toujours, c'est que en naviguant, on a l'impression qu'on passe d'une rive à l'autre, entre des îles. Et si j'ai dit qu'il fallait presque une vingtaine de jours, c'est qu'ils vont tomber d'abord sur des endroits qui sont complètement dépeuplés. Il faudra s'occuper de leur petit brigantin qui n'est plus en très bon état. Et il y aura encore pratiquement 15 jours pour qu'on puisse s'arrêter une nouvelle fois, s'occuper du grand brigantin. C'est là qu'on va remettre des mâts, on va refaire des cordages avec des lianes, on va reconfectionner des voiles avec les tissus de coton qu'on a volés aux indigènes. Et finalement, maintenant qu'on a mis tous ces bâtiments en état, il fallait encore trouver des vivres. Alors là, ils ont de la chance, une fois de plus, parce qu'ils vont trouver, pour la première fois depuis des dizaines et des dizaines de kilomètres, ils vont retrouver, je dis dizaines, mais c'est peut-être même milliers, ils vont retrouver des Indiens qui sont aussi bons et aussi pacifiques que les premiers. Et là, on va enfin leur ouvrir la porte des cases. Ils vont pouvoir s'approvisionner largement. Le 26 août 1542, ils prennent enfin la voie de la mer. Sans pilote, sans boussole, ni rien pour les aider dans leur navigation. Qu'ils ne savent même pas où ils se dirigent. C'est assez fou d'arriver, à partir d'un fleuve comme l'Amazone, dans une mer inconnue. Ils peuvent supposer qu'ils ont traversé pour la première fois le continent. Mais en fait, ils ne savent pas où aller. Et c'est l'impossible. Oui, je crois que c'est vraiment l'impossible qui va pouvoir s'accomplir pour ces quelques hommes qui survivent. C'est au mois de septembre, en 1542 toujours, bien sûr, que le grand brigantin, parce qu'il s'était un peu perdu de vue, va réussir... Enfin, il va réussir à toucher un port que j'aime beaucoup parce que j'ai fait cette région avec des bateaux et c'est ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle Cadix. Vous comprenez le pourquoi. C'est l'île de Cubagua. Cubagua, c'est une des plus belles îles qui se trouve au large des côtes vénézuéliennes. Donc, pour arriver jusque-là, le grand brigantin et ensuite le petit, mais il a fallu que ces gens-là franchissent même sans... Enfin, à mon avis, ils ne se sont pas aperçus qu'ils avaient traversé également l'embouchure d'un autre fleuve extraordinaire, l'Orénoque. Et puis qu'ils avaient... Bon, ils l'avaient vu, d'accord, ils ont dit ça, c'est certainement le Marañón. Enfin, il y a eu des confusions, ils ne savaient absolument pas où ils étaient. Et il y a une désorientation, on le sent par le journal de notre prêtre, une désorientation géographique qui est vraiment complète. Et ça m'intrigue beaucoup, parce que de Cubagua, eh bien, on va garder ce récit de Carvajal, sans lequel je ne pourrais rien vous dire aujourd'hui. Je ne pourrais même pas vous raconter ces silences de la descente de l'Amazone. Et Carvajal, lui, il va repartir au Pérou, je le disais tout à l'heure. Mais Orellana, c'est un conquérant. Il vient de traverser l'Amazonie, il vient de traverser l'Eldorado, bah lui, il ne pense qu'à une chose, c'est partir vers l'Europe. Et vous le voyez maintenant, partir depuis le Venezuela, se rendre non pas en Espagne, mais d'abord à Lisbonne, et là, bon, le roi du Portugal va lui faire des offres extraordinaires. C'est un peu comme si, d'avance, ce roi savait qu'il avait un Brésil quelconque à quelque part. Bah non, Aureliano n'est pas d'accord, il veut absolument voir son souverain, il est très fidèle, et c'est là que finalement on va lui permettre de diriger, si je peux dire, ou en tout cas de posséder ces provinces nouvelles. Oh, il décrit l'endroit avec une générosité incroyable. Ça va s'appeler la Nouvelle-Andalousie, ça me paraît aussi très important. Nouvelle-Andalousie, quand on connaît l'Andalousie et qu'on sent ce côté aquatique, cette richesse arabe de l'Andalousie, on comprend la volonté de confondre les deux choses avec l'Amazone. Mais il y a surtout cette richesse qui a existé aussi en Andalousie, cette richesse qui correspond bien sûr aux métaux précieux de l'Amazone. Alors Aureliana, il est en Espagne maintenant, il va être, parce qu'il a découvert quelque chose de fantastique, il va être lavé de toutes les... Bon, ben les accusations, parce qu'en fait, il y a eu forfaiture. C'est vrai qu'à l'égard de Gonzalo Pizarro, il a fait une erreur monumentale en abandonnant tout à coup ses hommes en pleine jungle. Mais il va être aidé par l'écrit, par le journal que je vous racontais, c'est-à-dire par l'écrit de Carvajal. Et là, les capitulations, c'est une chose qui est très précise en Espagne, vont être faites pour ce qui sera appelé la découverte et le peuplement de l'Andalousie. C'est-à-dire qu'on va lui donner des papiers pour retourner vers sa nouvelle Andalousie. Et cela a été signé en 1544, on a la date, le 13 février, ça, c'était fait uniquement au bénéfice d'Aureliana. Il possède entièrement l'Amazonie. Alors, bien sûr que déjà au mois de mai de l'année suivante, il repart pour l'Amazonie. Et ça, c'est très beau parce qu'il va partir naturellement avec une expédition beaucoup plus riche. Alors, j'aimerais juste vous remettre un peu dans cette ambiance, mais inversée. C'est-à-dire, vous partez d'Espagne avec, je ne sais plus, il y avait 3 ou 4 caravelles, mais je me rappelle en tout cas qu'il y avait 400 hommes à bord, en tout cas, donc un équipage très important. Et ça a été un voyage qui était long, avec des escales un peu partout. Bon, il s'est arrêté en tout cas plusieurs mois, je crois, aux Canaries. Il a été au Cap-Vert aussi. Là, il y a pratiquement 100 ou 150 personnes qui ont déserté, c'est vous dire s'ils avaient envie de connaître son Eldorado. Et puis, il s'est finalement... Oui, il y a eu des naufrages aussi. Je crois qu'il a perdu presque une centaine d'hommes. Il a perdu beaucoup de chevaux dans ce naufrage. Et il va arriver, finalement. Il va retrouver, maintenant qu'il a des boussoles, maintenant qu'il a tout ce qu'il faut, il va retrouver son embouchure de l'Amazone et il va remonter le fleuve sur, je ne sais plus, 100 ou 150 lieues. Et là, cette navigation... Ça, c'est une image que j'aimerais voir aujourd'hui. Parce que j'aime cet endroit, j'aime les fleuves qui ressemblent à cela. Mais j'aime surtout l'idée de cette bordure. Il me faudra encore un peu de son, c'est vrai, il faudra encore vous remettre un peu dans cette ambiance. Mais une caravelle dans un fleuve comme l'Amazone, c'est quelque chose d'assez fou. Parce que c'est absolument le bateau qui n'a rien à faire ici. C'est vraiment la chose la plus malaisée qui soit. Et nos Espagnols, ben, ils vont naturellement revenir aux anciennes méthodes par Aureliana interposée, c'est-à-dire qu'on va reconstruire une fois de plus un brigantin qui est beaucoup plus pratique avec son fond, etc., ce côté plat, et il y aura malheureusement des attaques là, comme on les a déjà subies en descendant. Il y aura une 60aine de morts, il y aura une des caravelles qui va faire naufrage, enfin un échec pratiquement, parce que ce qui est terrible, c'est que, je l'ai dit déjà tout à l'heure, Aureliana va chercher à s'orienter pour retrouver le bras principal de l'Amazone, et jamais il n'y est arrivé. C'est-à-dire qu'il va tomber malade. Et notre Aureliana, parce qu'il est un peu à nous maintenant, il va mourir. Il va mourir là, dans cette embouchure, sans savoir retrouver son fleuve qu'il a descendu. Et ces hommes, et je pense surtout à cette femme qu'il avait accompagnée, ses compagnons, ses survivants, sa veuve maintenant, ils vont reprendre le chemin de son exploit, de son premier exploit. Ils vont suivre la route qu'avait ouverte leur chef disparu. Et ils vont rejoindre cette mer, et surtout l'île de Margarita. On revient vers le Venezuela, pratiquement avec le même désespoir, le côté aventure héroïque est presque aussi absurde que la première des aventures d'Aureliana. C'est un traître peut-être au départ, mais je crois que c'est un découvreur malgré lui. Enfin, c'est quelqu'un qui, de toute façon, c'est le plus infortuné de tous les conquistadors de l'Amérique. Joue et gagne, on recommence. Je ne sais pas, j'ai encore envie de me mouiller, de rester humide, de revivre ma malaria. J'ai envie de vous ramener encore une fois peut-être en Amazonie. Peut-être qu'on ira ailleurs, mais j'aurais envie la semaine prochaine que nous soyons là, non seulement avec Aureliana, mais ses suivants, c'est-à-dire Aguirre, ces gens encore plus fous, et que nous allions nous balader peut-être au 19e parce que c'est encore l'Eldorado, ou même peut-être au 20e. Allez, Fitzgeraldo, vous connaissez. L'aventure la plus folle qui fait qu'un bateau à vapeur va passer d'un fleuve à l'autre sur une montagne. C'est encore une histoire d'Herzog. Mais c'est pour vous montrer que l'Eldorado est de tout temps, surtout là. Là où nous venons de le déguster aujourd'hui.